Merci Stanislas Vazak. Et ce soir, l'école sait-elle orienter les élèves ? Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Attention, prêt, partez. À partir de vendredi prochain, tous les élèves en classe de terminale vont devoir participer à la désormais traditionnelle compétition des APB, les admissions post-bac. L'inscription démarre le 20 janvier. Les lycéens ont 2 mois pour formuler leurs vœux en vue de leur première année d'études dans l'enseignement supérieur. Tous n'obtiendront pas gain de cause. Avec la massification du baccalauréat, le respect des choix n'est pas simple, en particulier pour les élèves venus des filières les moins prestigieuses. Orientés par défaut, ils sont nombreux à rencontrer l'échec. 6 étudiants sur 10 ne parviennent pas à passer en deuxième année de licence. Le constat est d'autant plus inquiétant que l'enjeu de l'orientation est capital dans une société où le chômage de masse est devenu structurel. Se tromper de filière, c'est mettre en péril son avenir. Il s'agit donc de faire les bons choix au bon moment, mais encore faut-il en avoir les moyens. Alors l'école sait-elle orienter les élèves ? C'est la discussion que nous allons avoir ce soir avec 4 invités. Sylvia Missy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseillère d'orientation psychologue. Vous exercez à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, au CIO. Et vous êtes par ailleurs la présidente de ACOP France, l'association des conseillers d'orientation psychologue français. Pour discuter avec vous, Armelle Nouy, bonsoir.
Bonsoir.
Proviseur du lycée Hélène Boucher à Paris, ça se situe dans le 20e arrondissement, les chefs d'établissement qui jouent un rôle important dans l'orientation. Vous avez participé à l'étude de Terra Nova en juin dernier, comment sauver le baccalauréat. Notre troisième invité, c'est Isabelle Grugeot, bonsoir.
Bonsoir.
Conseillère d'orientation à tonavenir.net, c'est un cabinet privé qui a été fondé en 2009, qui compte une vingtaine de franchises en France. Vous êtes situé en Seine-et-Marne et vous prouvez finalement qu'on peut se réorienter tout au long de la vie, puisque j'ai vu sur la présentation du site que vous exerciez autrefois dans le monde de la finance et que vous vous êtes réorienté voilà, dans ce domaine de l'orientation. Puis notre quatrième invité sociologue, c'est Séverine Chauvel, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de conférence à l'université Paris-Est Créteil. Vous avez publié à la documentation française en 2011 de l'inégalité de traitement selon l'origine dans l'orientation et les parcours scolaires. Et puis je voudrais également citer un ouvrage plus récent aux éditions textuelles, c'était l'an dernier, Course au diplôme, qui sont les perdants. Alors je voudrais commencer, comme je le fais assez souvent, par un premier tour de table sur ce moment, alors ce moment-là en l'occurrence des APB, mais plus généralement les moments un petit peu décisifs sur l'orientation. On sait que ce sont des moments qui peuvent être assez angoissants pour les élèves, évidemment aussi pour les parents, mais est-ce que c'est un moment un peu plus stressant pour les professionnels de l'orientation que vous êtes, au moins 3 d'entre vous, stressant parce que peut-être la peur de prendre une mauvaise décision. Armelle Nouy.
Alors c'est un moment angoissant pour les parents, ça c'est clair. Pour les professionnels, nous c'est surtout un moment très tendu parce qu'il faut organiser, faire en sorte que tout fonctionne. Il y a toute une technologie derrière cette organisation. Et c'est un moment où parfois on se trouve confronté à une espèce d'incohérence entre le travail qu'il avait fait tout au long d'une carrière, j'allais dire, d'élève, et puis l'arrivée, parce qu'on va voir arriver effectivement des comportements parfois très étonnants, de choix de dernière minute, de changement d'orientation alors que tout le projet a été construit. Il y a une fragilité de l'élève devant l'outil, devant la destination finale de son parcours, je dirais, d'étudiant, qui nous interroge toujours beaucoup. Donc c'est un moment tendu à la fois pour la charge de travail, pour l'accompagnement des élèves, oui, c'est un moment tendu pour nous aussi, absolument.
Avec parfois des choix que vous pouvez regretter en vous disant, tiens, peut-être que cet élève-là, j'aurais dû accepter sa décision parce qu'il aurait pu s'en sortir mieux que ce que j'imaginais. Ça peut arriver, ce genre de...
Souvent, ce sont des choix très restreints, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à avoir réfléchi à d'autres filières qu'à une seule. Ils se sont braqués sur un objectif. Donc, c'est peut-être ça, parfois, qui nous inquiète. Et du coup, c'est cette difficulté qu'on a eue parfois à les faire aller à plus de choses, à les faire choisir plus de possibilités d'études qui les intéressent. Donc il y a cette espèce d'entonnoir à l'envers qui se referme sur eux. Dans certaines filières, je pense à des filières professionnelles où les choix sont très risqués, et ils n'écoutent pas forcément. Il y a une volonté d'arriver quelque part qui ne correspond pas à leurs compétences, à leurs prérequis. Donc là, on est toujours très coincé parce qu'on les voit se orienter massivement vers des choses où on sait très bien qu'ils vont avoir très peu de chances de réussir.
Isabelle Grangeau, c'est une période de stress, alors de la part à la fois du public auquel vous êtes confronté et aussi pour vous.
Alors c'est tout à fait ça, c'est une période très dense, mais quand on a la chance de travailler avec des jeunes qui sont en première, nous on fait un accompagnement personnalisé. On voit minimum 6 heures le jeune en face à face, réparti sur 4 rendez-vous. Donc quand on a la chance de pouvoir avoir des jeunes en première, on a pu les accompagner, les aider dans cette recherche justement d'orientation, là on est plus serein. Mais effectivement, il y en a qui arrivent en terminale et on est comme les collègues soumis au même stress.
Et qui arrivent un peu paniqués parce qu'en se disant voilà, je ne sais pas quoi choisir et j'ai besoin de votre aide, c'est comme ça que ça se passe en général?
Oui, et alors donc à nous de les calmer, à nous de les faire réfléchir, correctement, tranquillement, sur leur orientation.
Sylvie Amici, vous me disiez, on discutait un tout petit peu avant d'entrer dans ce studio, que un des discours que vous essayiez aussi de tenir, c'était de dire attention, enfin justement, essayons de baisser un petit peu en stress. Enfin, la Terre ne va pas s'écrouler à partir du moment où vont s'ouvrir les admissions post-bac, notamment, puisque c'est le sujet du moment.
Donc, effectivement, beaucoup de stress pour les jeunes, beaucoup de stress pour les familles, pour les enseignants, pour les équipes de direction. Et je pense que notre rôle, en tant que conseiller d'orientation psychologue, donc en intervenant aussi bien en établissement qu'en CIO, c'est de dire, oui, il y a des échéances qui se rapprochent. Mais ces échéances, elles sont quelque part structurantes pour rentrer dans une réflexion. C'est-à-dire que oui, ça permet ça aussi. Par contre, on va être dans un temps où ça doit être l'action qui va venir nourrir la réflexion. Et à travers l'action des salons, des visites, toutes les actions qui sont mises en place, toutes les ressources d'information qu'ils peuvent trouver, papier, internet, etc. C'est vraiment en s'engageant dans cette démarche de faire et de quelque part s'obliger à construire des vœux. Pour certains, pour ceux dont les vœux ne sont pas encore construits depuis plus longtemps, parce que beaucoup d'élèves construisent leurs vœux bien avant, c'est vrai que de construire ces vœux avec cette échéance-là peut permettre de débloquer. Mais si on passe par l'action, voilà, je pense que c'est quelque chose d'important. Et notre rôle, effectivement, c'est de dire il y a un timing qui est complexe. 2 mois, c'est à la fois long quand même. Il y aura aussi jusqu'au mois de mai pour reconstruire ses vœux, changer
voilà,
d'ordre.
Voilà, on peut les modifier.
Voilà, on peut les modifier. On pourra les changer d'ordre, etc. Donc, apaiser, parce que rajouter du stress au stress, ça ne fait pas avancer.
Séverine Chauvel, ce moment de l'admission post-bac, alors vous n'êtes pas dans la situation de devoir, ou en tout cas d'avoir la possibilité de conseiller des élèves, mais vous observez les parcours liés à l'orientation. Est-ce que c'est un moment particulièrement décisif dans le parcours scolaire, ou bien est-ce que quand on arrive à l'admission post-bac, c'est-à-dire quand on est donc élève de terminale, une grande partie de l'orientation n'est-elle pas déjà faite? C'est-à-dire qu'on a déjà choisi sa filière, soit on fait un bac général, soit on fait un bac technologique, soit on fait un bac professionnel.
Oui, alors effectivement, là, les parcours, une partie des parcours sont déjà joués en fait en terminale. Ce qui me semble important là dans ce que vous avez dit, c'est les enseignants, les conseillers d'orientation psychologues cherchent à dédramatiser ce moment. En présentant aussi ce moment comme un pronostic, enfin comme une sorte de pronostic. En fait, on va faire aussi quelque part un pari, et c'est ça qui je pense peut être aussi angoissant, c'est la dimension d'irréversibilité en fait, et la question dont on parle souvent des fameuses passerelles. Est-ce que, dans quelle mesure en fait elles existent et dans quelle mesure on peut changer. Je pense qu'une deuxième dimension, c'est l'opacité en fait du logiciel, parce qu'il y a deux moments quand on parle d'orientation. Il y a le moment du conseil. Avec effectivement des conseils qui peuvent se faire donc soit au sein de l'établissement, soit dans des agences privées et la dimension de entre guillemets gestion des flux, c'est-à-dire qu'il s'agit de répartir en fait les élèves dans les différentes filières. Donc pour répondre à la question posée que vous posez là pour cette émission ce soir, l'école, c'est répartir les élèves en fait dans les différentes filières à peu près. Bon, il y a des ratés, il y en a qui n'ont pas forcément qui ne trouvent pas toujours de place, mais
savoir répartir ne veut pas forcément dire savoir orienter.
Voilà, on sait répartir. Après, entre cette dimension donc d'élaboration des vœux, cette phase d'élaboration des vœux et la phase d'affectation en fait où il s'agit de trouver une place, et c'est pas forcément, c'est là où ça peut coincer. Donc l'idée, ça serait l'élaboration des vœux soit réaliste en fait, hein, pour que l'élève puisse avoir une place dans la filière souhaitée.
Sylvia Missy.
Oui, je voudrais ajouter une troisième dimension. Donc oui, il y a bien cette dimension à la fois du conseil qui relève de la formation, ça l'école sait faire, hein, mais assez faire à la limite maintenant, je pense qu'il y a vraiment abondance et surabondance de ressources d'information, hein, qui viennent du supérieur, comme de liaison, tout est fait, beaucoup de choses sont faites en tout cas, et plutôt très bien faites. L'autre dimension qui est effectivement celle de l'école affectation, liées à des capacités d'accueil, des capacités d'accueil qui sont liées à des questions d'insertion prévues, mais qui du coup ont leur propre logique et qui là viennent se heurter à ce qui est du désir, de la projection dans l'avenir d'un jeune. Et une troisième dimension, quelque part, dont parlait Madame la proviseure en démarrant, qui est une dimension psychique, personnelle, développementale, où un jeune, il est en train de grandir, il est en train de construire son identité, et construire son identité à cet âge-là, effectivement, pour parler de son projet, ça fait partie de son identité. D'où des changements, d'où parfois des projets qui peuvent paraître idéalisés, magiques, ou qui viennent protéger l'image que l'on peut avoir de soi.
Et en même temps, construire son identité, Armelle Nouy, quand on a 17 ans et qu'on doit faire des choix qui vont être des choix absolument déterminants pour la vie, même si on peut sans doute parfois changer d'orientation, mais enfin c'est quelque chose de compliqué. Est-ce que ça n'est pas finalement, on demandait un peu trop aux élèves? J'ai vu quelque part que vous suggériez, par exemple, que tous les élèves suivent une année de césure après le bac pour être peut-être davantage en mesure de faire des choix, disons, pertinents après ce palier.
Alors ça, c'est un modèle qui existe beaucoup dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire ils ont tous une gap year, une année de gap, effectivement, à l'étranger. Et je pense qu'ils sont aussi dans une construction de l'élève beaucoup plus autonome et beaucoup plus mature pour vivre cette année de gap. Nous, on a vraiment un système très particulier. Vous dites, est-ce qu'on arrive à PB, c'est la poursuite d'un parcours. C'est la troisième étape d'orientation. Maintenant, il y a la troisième orientation, il y a la seconde classe d'orientation et il y a la terminale. En troisième, on répartit dans les filières, c'est une façon de voir les choses. En seconde, on répartit dans les filières, il y a quand même une capacité de décision. Et en terminale, finalement, on nous a sélectionné un peu partout, mais dans les textes, vous pouvez aller n'importe où. Parce qu'une fois que vous avez votre bac, quel qu'il soit, vous pouvez être redistribué dans toutes les facultés sur le texte, hein, le bac.
Voilà, ça,
donc
c'est
une
la
espèce
théorie
de contradiction quand même fondamentale entre l'orientation et la construction. Et quand vous arrivez au bout, une fois que vous avez été sélectionné, on vous dit maintenant choisissez ce que vous voulez. Et effectivement, beaucoup sont immatures et effectivement, on aimerait bien que là, ils aient une année de gap, mais ce n'est pas du tout le système français. Si vous partez une année à l'étranger, dans notre logique APB, c'est possible, mais c'est un tout petit peu plus compliqué de revenir, c'est un tout petit peu plus compliqué d'avoir votre évaluation, vos bulletins, etc. Le choix qui est possible, je pense que madame peut en parler, c'est de partir complètement à l'étranger. Et ça, on voit de plus en plus de jeunes dont les familles ont les moyens qui partent complètement à l'étranger. Mais notre construction à nous, elle a arrive en terminale, à la suite d'un parcours, on a été répartis dans différentes filières et paradoxalement, le choix qui s'ouvre à ce moment-là, il est gigantesque, alors qu'il n'a cessé de se restreindre au fur et à mesure de la scolarité.
Ça pose la question du bon moment pour faire des choix d'orientation. Vous, Isabelle Grugeot, les élèves les plus jeunes auxquels vous avez été confrontés, ils avaient quel âge, Armelle Nouy nous parlait du premier palier d'orientation qui est celui de la troisième, mais est-ce qu'il peut vous arriver de rencontrer des élèves ou des parents qui ont des enfants qui sont moins âgés, mais qui imaginent déjà des stratégies pour avoir la meilleure orientation possible?
Oui, oui, bien sûr. Il y a des jeunes, mais qui sont vraiment tout jeunes parce qu'ils sont en quatrième. Nous, on oriente aussi les jeunes qui sont en troisième parce qu'il y a la bifurcation. Il faut réfléchir sur le poste troisième. Voilà, je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit, ce que vous avez dit sur l'année de césure. Moi, je trouve que c'est une très, très bonne initiative, qu'en France, on ne laisse pas forcément la possibilité aux jeunes de partir, que ces jeunes, ils se connaissent pas forcément, qu'effectivement, on a la possibilité avec APB d'orienter massivement les 700 000 jeunes, sauf que on se rend compte aussi qu'en licence de droit notamment, il y a presque un jeune sur deux qui échoue. Donc, peut-être réfléchir à donner le temps aux jeunes de se construire, de savoir qui il est en partant à l'étranger. Il y a énormément de moyens. Il y a du woofing, fille au père maintenant c'est dépassé. Enfin, il y a vraiment de bonnes opportunités pour les jeunes. On a l'impression que le monde est trop petit, d'ailleurs pour eux.
Alors, puisque vous abordez la question de la licence, Isabelle Grosjeau, j'en profite tout de suite hein, pour rebondir. Alors, la question de la licence et du taux d'échec en licence. 6 étudiants sur 10 qui ne parviennent pas à passer en deuxième année de licence. Séverine Chauvel, enfin, j'adresse d'ailleurs la question à vous quatre. Est-ce que on peut dire que ce taux d'échec, qui est quand même important, alors même si certains vont redoubler hein, parmi ces 6 sur 10, est-ce que c'est lié à une défaillance du dispositif d'orientation, c'est-à-dire des élèves qui auront été mal orientés, ou bien peut-être au contraire un défaut d'orientation, c'est-à-dire des gens qui n'auront pas été orientés, mais qui se sont retrouvés là parce que bah, il n'y avait pas de place ailleurs.
Alors moi, je voudrais nuancer d'abord l'idée de l'échec, puisqu'en fait, vous parliez de césure. Bon, là, c'est une idée intéressante, mais la césure, elle concerne, dans le cas d'une césure à l'étranger, enfin, elle demanderait un financement important pour éviter qu'elle ne concerne seulement... Voilà, un certain nombre d'élèves réduits. La première année de licence, pour certains élèves, c'est vécu comme une année de césure. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils passent un an à l'université, ils découvrent un nouveau mode de fonctionnement, ils testent et en fait, ils peuvent aller ensuite dans un autre type de formation. Et c'est pas forcément vécu comme un échec, en fait. Donc, quand on parle d'échec, on parle en fait du résultat à l'examen, mais il faudrait regarder à court terme et à plus long terme ce que sont devenus ces étudiants.
Et justement, quand on regarde, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça nous enseigne ?
En fait, tout dépend l'origine en fait et de leur trajectoire antérieure. En fait, ceux qui n'ont pas les examens à la fin de la première année de licence, ce sont majoritairement, pour beaucoup en fait, hein, des étudiants qui viennent des filières professionnelles. Donc qu'est-ce qu'on observe hein, les filières.
Alors justement, est-ce qu'on peut pas se dire qu'il y a quand même un problème d'orientation, c'est-à-dire à quoi sert-il d'envoyer des jeunes qui ont un bac professionnel à l'université quand on ne sait jamais à l'avance, bien entendu, mais enfin, en tout cas, il y a quand même de grandes possibilités pour que ce parcours universitaire n'aille pas jusqu'à son terme, c'est-à-dire au moins un premier diplôme. Armelle Nouy et Sylvia Missy, Armelle Nouy.
Oui, alors par rapport à la réussite en faculté, c'est le grand problème des universités. C'est un petit peu ce qu'on avait dit dans le projet de Terra Nova qu'on proposait pour sauver le bac. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohérence entre les prérequis attendus dans une filière universitaire et ceux que les élèves obtiennent avec le baccalauréat. Le baccalauréat ne certifie pas, je dirais, un niveau de connaissance et un niveau de prérequis pour les différentes filières. Et ça, c'est une vraie question pour la faculté. Donc, rentrent en faculté des élèves qui n'ont pas justement ces prérequis. Et en plus, les baccalauréats ne sont pas forcément très lisibles. C'est-à-dire qu'on ne sait pas sur un baccalauréat S si le profil est vraiment scientifique, parce qu'on peut avoir eu son baccalauréat S avec des notes catastrophiques en maths et en sciences. Donc on croit avoir un scientifique qui ne l'est pas et qui va se casser la figure en sciences.
Mais est-ce que c'est un défaut d'orientation justement cette situation-là ? C'est bien un défaut d'orientation ou c'est le système plus global disons
qui, les jeunes ont un peu tendance à regarder quel est le champ des possibles. Et ils ont un peu du mal à entendre et puis on a... Enfin, casser l'espoir, c'est toujours un problème. On a toujours un peu de mal à leur dire et même moi, je lutte contre ça, de leur dire non, ça va pas être possible. C'est quand même assez difficile de dire ça. Donc, ils travaillent sur le champ des possibles, sur l'image, sur l'envie d'être, sur je peux dire que je suis en fac. Et effectivement, les bacs pro en faculté échouent. 5% des bacs pro en faculté ont une licence en 3 ans. Donc, effectivement, c'est un chiffre très, très faible.
Bon, Sylvia Missy, je suis élève, je suis lycéen, je suis en terminale, en bac professionnel, et je viens vous voir parce que, vous me recevez dans votre bureau, et je vous dis, moi, l'année prochaine, moi, j'ai envie de devenir avocat, donc je veux m'inscrire en
faculté. Ou de faire STAPS, par exemple, ce qui est assez commun, vouloir être prof de sport, un jeune qui a une pratique sportive.
Alors, qu'est-ce que vous lui répondez, en tout cas, à ce jeune? Est-ce que vous lui dites, attention, parce que il y a tel taux d'échec, donc tu risques quand même d'échouer dans ton projet? Est-ce que vous l'encouragez? Quels sont, on va dire, les critères qui vous aident, vous, à avoir un conseil le plus personnalisé possible?
Je crois que vous êtes prêt à venir avec moi travailler demain. C'est-à-dire que ce jeune de bac pro, déjà, c'est pas des statistiques, c'est une personne. C'est une personne avec une histoire, un parcours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des décisions qui ont été prises soit de son choix, soit par affectation, soit par défaut, par un conseil de classe, voilà, et qui font qu'il a fait une voie pro.
Voilà, parce que souvent on fait une voie pro parce qu'on n'a pas pu faire une voie générale.
C'est très vrai. De multiples raisons. Et il arrive, il a un autre âge, il a 3 ans de plus. 3 ans de plus, c'est énorme à cet âge-là. Il a d'autres intérêts. Par exemple, il fait du sport où elle s'est aperçue qu'en s'impliquant dans le domaine associatif, qu'il voulait faire du droit. Et donc, c'est toute une histoire personnelle. Ce ne sont pas des statistiques. Après, ces élèves de bac pro, effectivement, on va les retrouver en statistiques sur ces questions d'échec à l'université. Mais ce ne sont pas des statistiques au moment où ils choisissent. En tant que CIO, en tant que centre d'information et d'orientation, en équipe, nous réalisons ce qu'on appelle des suivis de cohorte. À l'échelle d'un établissement, ces élèves qui sont repérés comme des défauts quand ils font certains choix, ça représente vraiment des cas particuliers. Et ce que je voulais préciser, en plus, c'est qu'on parle toujours de l'échec à l'université sans examiner que dans les prépas aussi, il y a des élèves qui abandonnent, mais comme ils sont reversés vers l'université, ils ne rentrent pas dans des statistiques d'échec en prépa.
Oui, il y a des élèves moins enquiquinant d'échouer dans une prépa que d'échouer à l'université.
On n'a pas les mêmes chiffres. On n'est pas sur les mêmes chiffres, puisque c'est donné comme des orientations vers l'université. Donc, ce n'est pas mis comme en termes d'échec. C'est des élèves qui...
Mais ils ont une vraie continuité aussi.
Ils ont une continuité. Sur les BTS, il y a aussi des taux d'échec. Sur
les
DUT.
Non, on n'est pas les mêmes chiffres.
Mais je voudrais terminer quand même.
Je reviens sur mon lycéen, parce que vous répondez à la question sans y répondre tout à fait. C'est-à-dire, mon lycéen, du coup, est-ce que vous lui opposez quand même au moins un principe de réalité en disant, attention, ça va être extrêmement difficile, et puis le marché de l'emploi est tel que peut-être qu'il faudrait que tu réfléchisses plutôt à une autre orientation, ou bien alors vous allez être la conseillère d'orientation idéale qui va dire, suis tes rêves, suis tes projets. Mais la désillusion sera peut-être à la hauteur de ce qui avait été espéré.
Alors, je n'ai pas de boule de cristal, c'est-à-dire je ne sais pas. Ouais. Même France Stratégie, qui fait des enquêtes de prospective métier qualification, donc là, la dernière, c'était en 2015 pour 2022, si je ne me trompe pas, ils voient à 2022, ils ne voient pas à 10 années. On est dans un monde où les prédictions selon le contexte socio-économique va être très, très, très différent. Et je veux revenir sur cette histoire d'élèves de bac pro. On a aussi tout un tas d'élèves de bac pro qui font des vœux, on va dire, cohérents, c'est-à-dire qui demandent par exemple des entrées en BTS, et on sait que par exemple sur l'Île-de-France, par sélection, par dossier, ils n'auront pas le vœu qu'ils souhaitent. Et donc, ils ont mis un vœu de secours et ils iront à l'université. Et là, pour eux, ce qui va se jouer, c'est leur vie de jeune adulte. Avoir une bourse, avoir un statut. Et effectivement, je pense que pour un certain nombre d'étudiants, là je suis d'accord avec Madame Chauvel, c'est ne pas penser en termes d'échec, mais en termes d'expérience. C'est-à-dire que ces jeunes, ils vont faire des expériences.
Alors, je rappelle le thème de notre émission ce soir. L'école sait-elle orienter les élèves? En compagnie de Sylvia Missy, qui est la présidente de ACOP France, l'association des conseillères d'orientation psychologues. Armelle Nouy, proviseur du lycée Hélène Boucher à Paris. Vous avez participé à une étude de Terra Nova en juin dernier. Comment sauver le bac? Séverine Chauvel, sociologue. Vous travaillez notamment sur l'inégalité dans les parcours d'orientation scolaire. Et Isabelle Grugeot, qui fait partie d'un cabinet privé d'orientation. Ton monavenir.net, qui compte une vingtaine de franchises en France. Je sais que vous voulez réagir les unes et les autres à ce qui a été dit, mais juste pour qu'on fasse peut-être un tout petit peu aussi progresser la discussion, Isabelle Grugeot, par rapport aux demandes qui sont fortes et qui sont exprimées auprès des conseillères d'orientation psychologues, est-ce que vous avez l'impression, vous, que votre travail, donc qui est celui d'un institut privé, se fait en complément du travail qui est fait, ou bien est-ce que les parents qui viennent vous trouver en général disent, bah voilà, moi je n'ai, malgré peut-être l'information qui est importante à disposition, je n'ai pas réussi à démêler ce que je pouvais choisir pour mon enfant, et voilà, on a besoin de vous pour véritablement avoir une expertise en matière d'orientation.
On est tout à fait en complémentarité de ce que l'éducation nationale propose. Il y a, je suis tout à fait d'accord, énormément de choses sur Internet. Il y a pléthore d'informations. Mais justement, trop d'informations tue l'information. Et les parents sont complètement noyés par tout ce qu'ils peuvent trouver. Ils viennent nous, ils viennent nous voir aussi pour travailler avec leurs jeunes sur le problème que l'orientation peut poser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'orientation cristallise un vrai problème au sein de la famille. Et avec un conseiller, on permet à ces familles-là de pouvoir résoudre pas à pas le problème.
Juste d'un mot, Sylvia Missy, hein, après je vous donne la parole, premier Séverine Chauvel, mais est-ce que cette expertise extérieure, vous la voyez comme une expertise complémentaire qui peut peut-être vous soulager un petit peu par rapport à votre charge de travail? Parce que je crois que la moyenne par conseiller d'orientation psychologue, c'est 1400 élèves, c'est ce que j'ai vu. Donc voilà, c'est bien ça. Est-ce que vous y voyez une complémentarité qui est intéressante ou bien avant tout une faille du système? C'est-à-dire comment se fait-il que finalement l'éducation nationale ne soit pas en mesure de délivrer cette expertise seule, qu'il n'y ait pas besoin d'une expertise extérieure. Sylvia Missy.
L'éducation nationale n'est pas toute puissante non plus, donc je pense qu'il peut y avoir de la place pour des intervenants différents, avec des éclairages différents, pour des moments différents, que l'essentiel c'est d'ouvrir un espace de pensée. Après, ce qui me pose toujours question, c'est qu'en étant à l'interne des établissements et en connaissant les logiques d'établissement, parce que je pense qu'on va parler quand même d'inégalité, il faut savoir que les questions que vous nous posez, elles se déclinent très très différemment d'un établissement à l'autre, d'une équipe enseignante à une autre et d'un chef d'établissement à un autre. C'est-à-dire que les logiques, la façon dont vont être appliquées les décisions d'orientation, la façon dont vont être facilitées ou pas les parcours, la façon dont les passerelles ou pas vont être mises en œuvre sont très, très inégales et sur le territoire pour des raisons géographiques. C'est-à-dire que la carte de formation est très inégalitaire en France selon l'endroit où l'on habite et ensuite selon l'accès, même physique, parfois en transport que l'on a à certaines formations. Et pour le coup, là, je reviens sur ce qui se passe à l'interne de l'établissement. Je pense que le conseil extérieur est intéressant pour les familles et les jeunes, mais manque de cette dimension de qu'est-ce qui se passe pour le jeune dans l'établissement où il est, dans la dynamique des équipes, où là, en tant que conseiller d'orientation psychologue travaillant pour l'éducation nationale, on peut aussi interagir à l'interne des équipes pour on va dire, avoir un regard sur ce qui se passe, vraiment.
C'est vrai, Joël.
Oui, alors pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il y a des expériences tout à fait intéressantes qui sont faites en direction des établissements des quartiers populaires. Je pense notamment à l'expérience des ambassadeurs, où en fait, il s'agit de faire venir des anciens élèves qui ont été orientés et qui viennent parler de leur expérience. Pourquoi ça a été mis en place ? Parce qu'on s'est rendu compte que effectivement, il y avait beaucoup d'informations, que s'informer ne suffit pas et que cette information, elle a besoin d'être incarnée, en fait, parce qu'on s'oriente. Parce qu'on connaît quelqu'un, on s'oriente en fonction des ressources, en fonction des connaissances, en fonction du réseau social. Et certains élèves ont les ressources de par leur famille, ont des connaissances et connaissent très bien les voies parce que il y a des personnes, certaines familles qui ont fait tel ou tel, qui ont connu tel ou tel parcours. Par contre, d'autres élèves, donc de milieux plus défavorisés, eux n'ont pas ces connaissances, ces réseaux-là, et c'est vrai que c'est un des moyens en fait hein, qui est mis en place par les équipes dans les établissements pour pouvoir conseiller en fait les élèves dans leur choix.
Ma fille qui est au collège avec qui je discutais de ce sujet il y a quelques jours de cela, qui n'est pas a priori dans un milieu défavorisé, me disait ce serait bien qu'on ait chaque semaine une heure où quelqu'un viendrait nous présenter son métier. Je ne sais pas si c'est des choses en tout cas qui sont mises en place aujourd'hui à Armel Nouy, en tout cas dans la capacité aussi des établissements à proposer des rendez-vous en dehors des seuls rendez-vous avec les conseillers d'orientation psychologue.
Il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites dans les établissements et c'est vrai que ça dépend probablement du chef d'établissement et des équipes et des professeurs principaux. Ce que vous évoquez, le témoignage, moi je pense que c'est un rôle essentiel. On a des secondes qui viennent parler aux troisièmes, on a des premières technologiques qui viennent parler aux secondes et on a nos ex-terminales qui viennent parler aux terminales. Donc le 28 janvier, on recevra tous nos anciens terminales, un forum des anciens élèves, on le fait régulièrement à tous les niveaux parce que le témoignage est fondamental. On a aussi des propositions qui sont renvoyées maintenant très régulièrement par les entreprises. Par exemple, pour pas la nommer, la Fondation L'Oréal fait des propositions systématiques pour travailler sur les filles et la science. Donc nous, on est le relais vers les professeurs principaux de ces propositions et on a, l'année dernière, deux ou trois classes qui ont pris ce projet-là. On a cette année une classe de troisième qui va travailler là-dessus. On a les stages en entreprise pour les troisièmes. En seconde, quand les examens s'arrêtent à cause de ce fameux bac qui interrompt toute la fin de l'année et qui nous empêche de travailler sur l'orientation, on propose à nos secondes de signer des conventions de stage pour aller découvrir des métiers. Et il y a aussi la possibilité de signer des partenariats avec des associations qui travaillent maintenant avec nous pour accompagner les professeurs principaux à la conduite d'entretien. Parce que c'est vrai qu'une chose est de savoir ce qu'on veut faire et une chose est de se connaître soi-même.
Donc il y a une espèce la responsabilité, pardonnez-moi, je fais juste une petite parenthèse, mais la responsabilité de l'orientation, elle repose aussi beaucoup sur la connaissance des élèves que peuvent avoir les professeurs principaux. C'est un
Absolument.
Rôle essentiel dans le parcours d'orientation.
Et apprendre, les professeurs principaux ont maintenant des outils. Hein, on peut travailler avec des outils sur Internet, des outils qui sont aussi, on peut former nos professeurs principaux à apprendre à conduire un entretien et apprendre aux élèves à se connaître soi-même. Ils peuvent vouloir être médecins et puis finalement s'apercevoir qu'ils n'aiment pas le sang, qu'ils n'aiment pas être en contact de la matière. Enfin, il y a des écarts comme ça entre les rêves et des choses qu'on n'enseigne pas en classe. Il y a beaucoup de choses qui sont faites et dans l'accompagnement personnalisé, et pour revenir à votre fille, mais elle est en troisième, ce sera peut-être plus facile
en seconde.
Première et terminale, dans l'accompagnement personnalisé, on a un volet orientation, c'est-à-dire qu'on a une mission qui consiste à aider les élèves à réfléchir à l'orientation et à prendre du temps pour ça. Donc, dans les classes de terminale et de première, parce que comme vous l'avez dit, on travaille beaucoup.
Tous les profs les assurent, les heures par exemple d'accompagnement personnalisé, ou bien, enfin, est-ce que les heures d'accompagnement qui sont dédiées à cet accompagnement personnalisé sont toujours consacrées à de l'accompagnement personnalisé Séverine Chauvel et
oui, alors en fait, pour l'accompagnement personnalisé, il faut bien connaître l'offre locale. J'en reviens à cette question de l'offre locale d'orientation, des places, hein, puisque pour moi c'est vraiment décisif, hein, c'est ce que j'explique dans mon livre. Certains collèges, certains lycées qui sont dans des quartiers populaires, qui connaissent un turnover des enseignants importants avec des jeunes enseignants, n'ont pas le temps de se former. Et c'est sur eux que repose la responsabilité de conseiller. Et c'est très difficile. Et avec le témoignage de madame, on voit bien là les inégalités entre les établissements et qui contribuent en fait aux inégalités d'orientation, puisque l'offre n'est pas la même pour tout le monde. Est-ce qu'on peut parler de service? Enfin, on parle de service public d'orientation. Si effectivement il y a des entreprises qui interviennent dans certains établissements, mais pas dans d'autres, le conseil n'est pas le même.
Sylvain Missy.
Actuellement, l'idée, elle est de décliner les questions d'orientation et quelque part une acculturation à ce qu'est le versant insertion de l'orientation au sein de ce qu'on appelle le parcours à venir, c'est-à-dire quelque chose qui va être présenté aux jeunes et qui est inclus dans toutes les actions de l'école, c'est-à-dire aussi bien des actions spécifiques que au sein des enseignements. Et
je crois qu'il y a... C'est un parcours qui va de la sixième à la terminale, voilà, sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Comme
ça. Donc c'est vrai que ça vient d'être proposé aux enseignants. C'est vrai que c'est proposé en même temps qu'une réforme des disciplines, ce qui fait que ça met les enseignants en difficulté, et comme le dit madame, d'autant plus dans les endroits où il y a de l'instabilité, où les gens, voilà, il y a un turnover, etc. Mais je crois que l'idée, elle est intéressante dans le sens où vraiment, c'est se dire, justement, arrêtons de parler de ce mot d'orientation, parlons de parcours. Un parcours qui fait qu'au sein des connaissances, au sein des disciplines, on s'intéresse à ce qu'est le monde économique et professionnel. On fait des actions ponctuelles, on fait aussi des focus au sein de tel et tel enseignement. Et en même temps, pendant tout ça, justement, vous posiez la question de est-ce que les jeunes se connaissent. Et bien, le jeune apprend à se connaître, parce qu'on ne se connaît pas en soi de fait, d'une façon, on va dire, monolithique et qui serait acquise pour toutes. Ce sont des jeunes qui sont en train de se construire, justement. Et c'est toutes les expériences que l'école va leur proposer, les connaissances qu'elle va leur proposer, qui vont structurer cette connaissance de soi, et pas l'inverse.
À condition que le parcours, ensuite, qui est prédéfini, puisse correspondre à ce que propose l'institution scolaire. Et on voit bien que là, il peut y avoir des tensions. Isabelle Grugeot, ça fait un petit moment que vous vouliez réagir.
Oui, je voulais rebondir sur ce que Sylvia vient de dire. Nous proposons en deux mots un test d'orientation où il y a 120 questions. Ça permet de définir au moment présent le profil professionnel, les motivations et la personnalité du jeune. Bien sûr, on l'accompagne. Il n'est pas seul face à la machine, hein, parce que des tests sur Internet, il y en a aussi beaucoup qu'on peut trouver. Nous sommes là. Et puis, on accompagne le jeune. Mais moi, je vais pouvoir avoir un discours face au jeune qui est passablement celui que le papa ou la maman dit aux jeunes. Il faut que tu travailles plus, il faut que tu fasses augmenter tes notes scolaires, etc. Quelque chose qui est très important, c'est qu'ils prennent les informations par le biais d'autres jeunes qui ont un ou deux ans de plus que lui. C'est-à-dire, lors des jours des portes ouvertes, de rencontrer les étudiants, quand il y a les ambassadeurs qui viennent dans les lycées, ça c'est très très important. Et ça, si c'est fait de manière, pas systématique, mais de manière récurrente, le jeune peut se rendre compte qu'il n'est pas fait, par exemple, pour l'université. Voilà. Aller rencontrer les jeunes qui ont deux ans de plus que lui, par exemple, pour parler et avoir, pas une personne adulte, enfin, si une personne adulte, mais pas une personne beaucoup plus vieille que lui.
Je voudrais vous citer un extrait d'un rapport du défenseur des droits, Jacques Toubon, rapport qui a été rendu public en novembre dernier sur cette question justement des discriminations à l'école. Et il y a un chapitre qui est consacré à celui de l'orientation qui dit ceci. À niveau scolaire égal, les professeurs ont tendance à orienter les élèves de milieux favorisés en seconde générale et les élèves de milieux défavorisés en seconde professionnelle. Au final, l'origine sociale et l'orientation dans des classes spécialisés sont fortement corrélés. Est-ce que c'est un constat que vous vérifiez, Séverine Chauvel, et ensuite Armel Nouy?
Pardonnez-moi. Les enseignants, en fait, orientent beaucoup avec l'idée de faire réussir. Et donc, c'est parfois une orientation où on anticipe l'échec. Et on parlait des statistiques tout à l'heure.
Ils ne le font pas de manière délibérée, hein, mais c'est pas de dire, voilà. Inconsciemment, il y a cette...
En fait, les professeurs veulent que leurs élèves réussissent. C'est tout à fait légitime, hein. Donc ça, je pense que c'est un point important. On a parlé des statistiques tout à l'heure. Les statistiques, en fait, elles décrivent effectivement que près de 40% des élèves... qui sont de milieu populaire vont les élèves de lycée professionnel sont de milieu populaire. Bon, voilà. Donc ça c'est une description, ça montre une forme de probabilité si vous voulez, mais effectivement, ce n'est pas il y a des exceptions et on ne peut pas transformer cette probabilité en prophétie autoréalisatrice puisqu'il s'agit quand on est au moment du conseil d'orientation, il s'agit d'une personne en particulier.
Et quand vous dites Séverine Chauvel, donc les professeurs veulent que leurs élèves réussissent, donc ils vont préférer peut-être orienter certains élèves dans des filières qui sont moins prestigieuses, parce qu'il faut quand même dire les choses comme elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire filière technologique et surtout filière professionnelle sont moins prestigieuses, mais en se disant au moins cet élève-là aura plus de chances de réussir qu'il y a plus de chances qu'il échoue si suit une filière générale. D'un mot, c'est comme ça qu'il faut comprendre.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le soutien de la famille est très important aussi. Donc là, vous parliez du milieu social, mais la perception que les enseignants ont de la famille, est-ce que la famille va soutenir l'enfant? Est-ce que ça va compter? Donc c'est là où c'est pas seulement les notes, c'est pas seulement le niveau, c'est pas seulement le désir en fait de l'élève qui joue.
Armelle Noïs.
J'ai entendu très concrètement, on peut pas l'envoyer dans cette filière-là parce que là, le réseau doit compter, il aura pas de réseau. Donc, ce que vous dites est tout à fait juste, c'est-à-dire que les enseignants intègrent ça. Mais il y a aussi une inégalité géographique que je voudrais évoquer et qui est liée sur, qui est une espèce de culture. Moi, j'ai habité longtemps en province, je parle là en tant que mère de famille, et les enfants en province, les élèves et les jeunes en province, ils ont pour objectif le BTS, l'IUT, dans les petites villes de province, la classe prépa, c'est effectivement quelque chose d'un peu exceptionnel. On a déménagé dans la région parisienne. Et mes propres enfants m'ont dit « Ah non, mais maman, ici, le BTS ou l'IUT, c'est nul, c'est le moins bien que tu puisses faire, c'est Dauphine, médecine, c'est pas top du tout, tu vas en classe prépa. » Donc, il y a une espèce de culture d'établissement, quel que soit, je dois dire, le milieu culturel, le champ des possibles ou la culture géographique ou les métiers qu'ont les gens autour de vous, dans les petites villes de province, ils vont pas vous pousser à faire les mêmes études. Et ça, c'est lié, c'est social, mais c'est aussi géographique. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'inégal qui est lié à ça dans les choix qui sont faits.
Sylvia Missy, c'est à vous que va revenir l'honneur peut-être de conclure cette émission. Je crois que vous avez posé la question qu'on pose ce soir à certains de vos élèves aujourd'hui. Alors il vous reste 30 secondes, mais vraiment maximum, pour dire ce qu'ils vous ont dit. L'école, c'est-elle orienter les élèves? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit les élèves que vous avez rencontrés aujourd'hui à ce sujet?
Marie, c'est nous qui devons choisir, parce que c'est quoi si c'est l'école qui nous oriente? C'est les profs, c'est le conseil de classe, ils ne peuvent pas savoir à notre place. Nawel, c'est compliqué, parce que même nous, on ne sait pas ce qu'on veut. On aimerait que les autres, ils sachent ce qu'on peut faire de bien. Un truc pas trop difficile, qui paye bien. Mais Marie a raison. En même temps, on ne veut pas que les autres décident pour nous, et surtout pas les profs. Ce qu'on est à l'école, c'est juste une petite part de nous, et on peut changer plus tard.
Voilà, c'est une façon aussi de donner la parole aux élèves. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir toutes les quatre participé à cette discussion. Il y avait énormément de thèmes encore qu'on aurait pu aborder. Enfin, l'école, c'est un sujet sur lequel on revient assez régulièrement, dont du grain à moudre. Merci à nouveau, donc, Sylvia Missy, Armelle Nouis, Isabelle Grugeot et Séverine Chauvel. Merci également à toute l'équipe du grain, Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Rich et Cyril Baer. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis, avec à la prise de son Jean-Frédéric. Demain, faut-il se méfier de nos amitiés numériques? Ce sera la question posée à partir de 18h20. Tout de suite, le sommaire de ping-pong avec Mathilde Serrel et Martin Kenen. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Hervé Gardette.
Bonsoir Hervé. Ce soir, c'est un ping-pong hors norme avec le metteur en scène Jean-Michel Rabeu pour son Aglaé, récit d'une prostituée de 70 ans, véritable Griselidis Real, sarcello-marseillaise, incarnée par Claude Desgliam au Théâtre du Rond-Point à Paris.
Et avec la romancière Nina Léger qui signe chez Gallimard une mise en pièce au goût de foot, de latex et de cantharide.
Voilà, bien avant ce ping-pong extrêmement sulfureux, le rappel des titres.